Radio Spirale.
Enregistrement de la première édition du Cercle de lecture Poésie Été, initiative de l'organisme à but non lucratif La Poésie Partout. Ce cercle de lecture, animé par Bertrand Laverdure, est portant sur le recueil Kaléidoscope ou les aléas du corps grave de Michel Beaulieu, s'est tenu le 2 avril 2017 au Salon de thé Cardinal, situé au 5326 Boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Étaient réunis pour l'occasion Aimé Lévesque, Daniel Racine, Isabelle Godin-Labine et Benoît Bordelot. Cet enregistrement a été rendu possible grâce à la complicité du développement de partenariats Littérature québécoise mobile.
Alors, bienvenue au premier cercle de lecture Poésie Été qui se tient au Cardinal, Salon de thé sur la rue Saint-Laurent. Aujourd'hui, 2 avril, nous allons parler du livre de Michel Beaulieu, Kaléidoscope ou les aléas du corps grave. Je m'appelle Bertrand Laverdure et je serai votre animateur du cercle. Cette initiative provient de l'OBNL, La Poésie Partout, qui s'intéresse à diffuser la poésie québécoise, aussi bien dans les événements de poésie, micro ouvert et les divers événements que dans ce cercle de lecture qui s'intéresse à partager la mémoire de la poésie d'ici et de la poésie d'ailleurs. Donc, on va commencer par un petit tour de table des gens qui se sont déplacés par cette belle journée de printemps sur le Mile End pour parler de poésie, parler de Michel Beaulieu et parler de leur intérêt de la poésie, pour la poésie aussi. Donc, Aimé Lévesque, bonjour. Alors, ta première réaction après la lecture de Michel Beaulieu, ta première impression?
Moi, je vais parler un peu par rapport au titre, Kaléidoscope, les aléas du corps grave. En voyant Kaléidoscope, je me suis attendue à des couleurs, juste comme ça. Puis en fait, l'image, deux choses qui me sont venues, je peux dire ça rapidement. La première, je pensais, en fait, le texte qui est vraiment très long, comme un flux de pensée, ça me faisait penser, ça part un petit peu dans tous les sens, ça me faisait penser à un album photo qu'on échappe dans le train en voyage.
Wow. Très belle image, oui, c'est tout à fait à propos.
Puis, tu sais, on échappe, on se mélange un peu, puis là, je pensais aussi au temps qui est télescopé, non pas kaléidoscopé, mais des espèces d'aller-retour entre des secondes actuelles, puis deux ans en arrière, en souvenir dans le présent, tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant.
C'est excellent. Pour une première impression, c'est une première impression assez étoffée. Garde-toi-en un peu pour le reste.
Bien sûr, j'en ai plein.
Ouais. Daniel Racine, chroniqueur cinéma à CBL. Bonjour.
Bonjour.
Donc, ta première impression à la lecture.
Bon, moi, c'est un retour à la poésie après quelques années d'absence. Ça a été au départ une lecture très difficile. Bon, l'idée de Kaléidoscope, de fragments, hein, tout ça, il a fallu que je plonge vraiment et que... J'ai découvert finalement en lisant qu'il y avait un rythme. Et je me suis dit, bon, je pense qu'il va falloir que j'accompagne ça de musique pour que je puisse pleinement apprécier ce que je lis. Et là, j'ai mis, un DJ que j'écoute en ce moment, je vais le nommer DJ Molécule, un DJ français excellent à découvrir. Mais en ayant sa musique dans mes oreilles et en lisant les mots, là, j'ai réussi à trouver une cadence qui m'a permis de trouver... J'étais grisé d'une certaine façon parce que je lisais, puis j'arrivais mieux à l'absorber avec la musique.
Tu as mis en scène ta lecture, en fait. Tu as trouvé une trame sonore à ta lecture, tu as lecture.
Je mets en scène ma vie en général, donc c'est tout à fait logique. Fait que je vais m'en tenir à ça pour l'instant, mais il y a
une chose à dire. C'est une bonne stratégie pour assimiler la voix un peu litanique de scansion de Michel Beaulieu. Mais on en reparlera, mais moi je pense qu'il ne faut pas lutter contre le rythme de l'auteur. Il faut à un certain moment l'absorber puis s'en accommoder. C'est là que le texte se dévoile de façon plus naturelle aussi. Mais ta façon de lire aussi est tout à fait à propos. Benoît Bordelot, technicien pour Radio Spirale et lecteur aussi et poète.
Parfois.
Bonjour.
Alors bonjour. Oui, ça en fait. Bien sûr, Beaulieu, en fait, j'en ai une lecture là, qui date quand même d'un certain temps, mais ce qui me fascine chez lui, c'est sa capacité en fait à aller chercher des détails en fait qui relèvent la banalité quotidienne et de nous faire nous faire vivre en fait dans notre vie de tous les jours quand on retourne marcher dans la rue, de nous forcer en fait à porter attention à des justement à ces détails, à ces petits événements-là du quotidien auxquels on ne porte plus nécessairement attention. Et donc, je pense que bon, ma voix va se mêler à travers le travail de console et tout. Donc, je ferai un peu de relais sur vos discussions. Mais, voilà, donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Beaulieu, c'est justement le regard qu'il porte sur la vie, très tendre, très empathique, tout en conservant, en fait, certaine distance liante, si on veut.
Oui, c'est ça, effectivement, Benoît. Michel Beaulieu est un structurateur de regard, une espèce de chef d'orchestre du regard sur la ville. Et tu as absolument raison en parlant de son traitement de la banalité. D'ailleurs, son dernier livre posthume s'appelle Trivialité. Et abonde dans le sens. Dans lequel tu présentais l'œuvre de Beaulieu. Donc, merci pour l'enregistrement, bon enregistrement. Isabelle Gaudet-Labine, poète, bienvenue. Malheureusement, merci. Tu n'as pas lu le bon livre, mais on va t'accueillir quand même. Et on espère que tu vas te présenter au deuxième cercle littéraire qui va porter à ce moment-là sur le livre de François Charron, La beauté des visages ne pèse pas sur la terre, le 21 mai, je fais de la plug. Alors, Isabelle, ton impression de lecture de poésie en général?
Bon, ma première impression, ça a été de me rendre compte que j'avais pas lu le bon livre. Oui. Mais à ma défense, je dois dire que c'était un malencontreux déficit de communication.
Oui. Entre nous. On va essayer de régler pour la deuxième
alors, pour moi, Beaulieu, c'est le poète que j'aurais aimé lire depuis longtemps. C'est celui dont j'entends parler depuis longtemps et malheureusement, je ne l'ai pas assez lu, très peu lu. J'en sais ce qu'on en dit. Surtout l'aspect, justement, poésie qui intègre le quotidien à son écriture et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais être là plus pour vous faire la conversation, pour échanger avec vous, puis réagir sur ce qui va être lu, dit.
Et je ne manquerai pas de t'utiliser comme lectrice de quelques textes de Beaulieu, car tu as une belle voix de lectrice.
Avec plaisir.
Alors, bonjour, je reviens à moi et à la présentation de Michel Beaulieu. Je vais faire une espèce de présentation biographique générale pour replacer le personnage dans la littérature québécoise. Michel Beaulieu est né en 1941 et est mort en 1985. Il est mort très tôt à 44 ans, malheureusement, d'un malaise cardiaque. Et Michel Beaulieu est né d'un père collectionneur d'art contemporain qui s'appelle Gérard Beaulieu. Il a donc baigné dans les œuvres d'art toute sa jeunesse, d'autant plus que son oncle, Paul Vanier Beaulieu, était aussi un peintre connu. Dans le courant de son œuvre, Michel Beaulieu et Jacques Brault vont écrire une monographie sur l'oncle de Michel Beaulieu, Paul Vanier Beaulieu, qui va être publiée dans la collection Signature, la collection des monographies sur les grands peintres québécois. Michel Beaulieu ne vient pas d'une famille du Faubourg Amelas ni du Centre-Sud. Il vient d'une famille quand même bourgeoise de Notre-Dame-de-Grâce. Il a été élevé à Brébeuf, dans les grandes écoles. Et très tôt, il s'est été disposé pour faire du journalisme étudiant. C'est le genre d'étudiant qui se retrouvait toujours rédacteur en chef du journal de son école. Et il a été rédacteur en chef du journal de l'UQAM, de l'Université de Montréal, excusez-moi, le Quartier Latin à l'époque. Et dans le courant de sa carrière, il a même fondé plusieurs journaux. C'est le poète de la rue Draper, Draper, D-R-A-P-E-R. Et j'ai sorti sur Google Maps où ça se trouve, cette rue. C'est une rue à Notre-Dame-de-Grâce qu'on retrouve entre le chemin de la Côte-Saint-Luc et l'avenue Monklin, près du métro Villa-Maria. Et si je parle de la rue Draper avec insistance, comme un petit limier Sherlock Holmes de la vie des gens, c'est surtout parce que, étant donné que la poésie de Beaulieu parle du quotidien, parle de son enfance, eh bien, la rue Draper et les événements qui ont eu lieu durant son enfance sur la rue Draper sont évoqués dans tous ses livres, et entre autres dans Kaléidoscope ou Les élèves du Congrès. Michel Beaulieu est un auteur majeur, un monument, un géant de la littérature québécoise, moins connu que Jeannine Souteau, géant, elle-même malheureusement morte récemment, dans le donc, paysage culturel québécois. C'est un poète, les gens le connaissent peu. Et il est arrivé après la génération de l'Hexagone, donc après Gaston Miron, et puis donc après Jacques Brault et après Roland Giguère. Donc, les trois gros séquoias qui cachent la forêt pour les jeunes auteurs, et même pour les auteurs de mon époque aussi. Ça reste des auteurs qui ont tracé le chemin et qui ont, malheureusement, fait l'ombrage aux autres qui sont venus après eux. Mais Michel Beaulieu, c'est un grand auteur parce qu'en 44 ans, il a publié 41 recueils de poésie, 3 romans, une pièce de théâtre et une quinzaine de pièces radiophoniques, en plus de centaines d'articles critiques sur la poésie de ses contemporains et des traductions. Si je veux continuer rapidement, il fonde l'Odyssée, journal des étudiants de la Faculté des arts de la GEUM. Il est directeur des presses de l'Association générale des étudiants, où d'ailleurs il a publié son premier recueil avec Nicole Brossard. Nicole Brossard a publié avec Michel Beaulieu son premier recueil aux presses de l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal dans les années 60. Co-fondateur avec Gaston Miron des éditions de l'Estérel en 63, il ouvre à Montréal sa propre librairie avec Gaston Miron. Sur la rue Saint-Denis, la librairie s'appelait la librairie Michel Beaulieu, qui a eu donc pignon sur rue de 67 à 69. Et c'était l'équivalent d'une espèce de port de tête, parce qu'il publiait, il distribuait beaucoup de poésie contemporaine, des fanzines, des publications artisanales, et donc il s'intéressait à toute la jeune poésie, à la littérature contemporaine. Donc, il faut imaginer une espèce de port de tête qui serait animé par Gaston Miron. Et Michel Beaulieu a beaucoup appris de ces deux années-là parce qu'il disait « J'ai beaucoup dialogué avec Gaston Miron. » Et il s'est rattrapé par la suite. Il disait « J'ai pas vraiment dialogué, j'ai écouté ses monologues. » Critique, éditeur, journaliste et traducteur, il collabore à de nombreux périodiques culturels comme Parti pris, Les Arbres rouges, Presque d'Amérique et Au Beau-Québec. Et sa carrière a commencé vraiment en 73 et il s'est fait connaître de la fratrie de la poésie et de la littérature au Québec en publiant Variable, qui s'est mérité le prix de l'étude française en 73, qui est un recueil formaliste que j'ai lu avec beaucoup de plaisir quand j'étais un petit peu plus jeune, poète donc rookie, et qui m'a complètement fasciné parce qu'effectivement, l'œuvre de Michel Beaulieu, c'est une œuvre singulière qui est entre les modes, qui s'est inspiré de la contre-culture, qui s'est inspiré de la poésie urbaine, qui s'est inspiré aussi du structuralisme, de l'école de telle qu'elle, mais qui n'a jamais mis les pieds dans une église ou dans une espèce de groupuscule ou de groupe de poètes qui s'identifiaient de façon un peu plus pointu à un courant ou à un autre. C'est quelqu'un qui a toujours vogué entre les courants, c'est quelqu'un de très cultivé. Et c'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup la littérature anglophone, la poésie anglophone. Il en a beaucoup lu et on va en parler dans le cadre de Kaléidoscope ou Les aléas du corps grave bientôt. Mais le Kaléidoscope, entre autres, c'est un livre qui est influencé beaucoup par la poésie narrative, la poésie qui veut raconter ou témoigner du réel, la poésie donc américaine de Carlos William, et la poésie anglaise, par exemple, d'un grand poète comme l'ami de Leonard Cohen, entre autres. Le nom ne vient pas, mais un poète de McGill. Bref, ça va en revenir tantôt. Mais donc, c'est un recueil qui a tiré une partie de son inspiration de cette lecture-là assidue des poètes américains et des poètes anglophones. À sa mort, Michel Beaulieu a légué à l'Université de Montréal, sa bibliothèque de poésie en entier, qui contenait 6700 livres de poésie en français et 2500 livres de poésie en anglais, pour vous dire à quel point l'homme était un érudit en la matière. Le motto de l'œuvre de Michel Beaulieu, avant de commencer à rentrer dans le sujet, donc à entamer la lecture de Kaléidoscope avec vous tous, a d'abord été une espèce d'entrée en matière dans le formalisme, donc dans l'écriture qui déconstruit l'écriture et l'écriture qui travaille sur la forme et la syntaxe. Et on en retrouve aussi beaucoup d'exemples dans Kaleidoscope ou les Aléas du corps grave, car c'est des vers narratifs coupés avec beaucoup d'enjambements. Mais il y a des ellipses, il y a des sauts logiques, et il y a des trous dans la narration, des trous qui sont aussi importants que les pleins, en fait. Et on va le voir. Et à la fin de sa vie, à l'époque de Kaleidoscope ou les Aléas du corps grave, qui sont maîtres livres pour plusieurs critiques, d'ailleurs qui a été réédité en BQ, en livre de poche récemment en 2016-2015, il a voulu travailler encore plus l'idée du témoignage. Et c'est les œuvres de la fin de sa vie, c'est des œuvres qui ont été écrites en écoutant le motto. Ben, Michel Bouillot a fait beaucoup d'entretiens avec Jean Royer, entre autres, et beaucoup d'entretiens avec des écrivains dans beaucoup de revues. Donc, il a abondamment parlé de son travail. Et il a mentionné plusieurs fois que l'écriture doit être impudique. Alors, à cet égard, on comprend, et en la lecture de Kaleidoscope, les Aléas du corps grave, on a aussi une espèce de rentrer dans ce que les gens ou les plus jeunes aujourd'hui comprennent par l'autofiction, par cette espèce d'impudeur, cette espèce de volonté de montrer le sexe cru, le sexe un peu banal, le sexe bête. Et aussi les rapports avec autrui qui ne sont pas toujours idéalisés. Alors maintenant, rentrons dans la lecture de Kaleidoscope ou les Aléas du corps grave, recueil qui s'est mérité le premier grand prix du Festival de poésie de Trois-Rivières, International de poésie de Trois-Rivières en 1985. C'était l'inauguration du grand prix du Festival de poésie de Trois-Rivières, donc c'est le premier poète primé. Malheureusement, c'est un prix qui lui a été remis posthume, car il est mort en 84. Donc, c'est un prix hommage en même temps sur son œuvre. Un hommage pour toute son œuvre. On va s'intéresser d'abord au titre. On va repasser tranquillement. Aimé a parlé du Kaleidoscope, effectivement. Si on veut être un petit peu plus technique, je suis allé chercher la définition Wikipédia de Kaleidoscope. Et je vais en lire une partie parce que on va trouver des liens pour la lecture du livre. Un kaleidoscope est un tube de miroir réfléchissant à l'infini et en couleur la lumière extérieure. Le nom de ce jouet vient du grec kalos, signifiant beau, et eidos, image, et skopen, regarder. Donc, je crois que trois, quatre mots très importants dans l'œuvre de Beaulieu qui peuvent être prises à travers l'utilisation du mot kaleidoscope ici. D'une part, miroir, d'autre part, beau, kalos, d'autre part, image, et d'autre part, regarder. Et l'idée aussi, c'est de... Un kaleidoscope, comme disait Aimé, c'est des couleurs, mais c'est des couleurs qui sont rejouées à l'infini à partir de particules ou des morceaux de verre qui sont finis. Nos souvenirs sont finis, la vie de l'être humain est finie, mais... Le retour sur les souvenirs est infini et le retour sur notre passé et sur les événements de notre quotidien est infini, mais partent d'éléments finis. Donc, c'est un peu l'idée. Le sous-titre, « Les aléas du corps grave ». Quoi? Tu me regardais avec... Daniel Racine me regardait avec un air interloqué, mais on va continuer. Donc, le sous-titre, pour aller passer au sous-titre, « Les aléas du corps grave », le corps grave en science, c'est le corps qui est lesté par la gravité. C'est le corps gravide de la gravité. C'est le corps qui est susceptible d'être influencé par la gravité. Et c'est intéressant de le mentionner parce que c'est une expression scientifique. Et qu'à cette époque-là, Michel Beaulieu, qui a toujours été intéressé par les essais scientifiques, lisait beaucoup d'essais sur la science et la technologie. Il y a quelques liens et quelques allusions, par exemple, aux ordinateurs dans le livre ou à la technologie. Et il faut se dire qu'on est en 84. Là. C'est vraiment les débuts de Commodore 64 et des choses comme ça. Et lui, ça l'intéressait déjà. S'il avait continué à écrire, possiblement qu'il aurait écrit des livres à thématique scientifique ou technologique. Dans un entretien, il s'est justement confié à Jean Royer qu'en 81 à 82, les deux années de l'écriture de Kaleidoscope ou les Aléas du corps grave, Il était en grande lecture intensive d'essais sur la science et la technologie. Bien entendu, c'est avant Internet, bien entendu, c'est avant les réseaux sociaux, bien entendu, c'est avant les ordinateurs personnels, mais la présence de la technologie déjà à l'époque était... c'est le début d'Apple, 84, c'est la fameuse publicité d'Apple. Et donc, c'est les débuts de l'hégémonie dans la conscience des gens de la technologie dans leur vie quotidienne aussi. Et je voudrais rajouter une petite interprétation très personnelle, une petite touche personnelle de ma part, encore au lien avec le titre « Kaléidoscope, les aléas du corps grave ». Rainer Maria Rilke, dans « Lettre à un jeune poète », dans sa quatrième lettre, donne un conseil au jeune poète et lui dit comment écrire et comment s'inspirer. Et lui dit « Presque tout ce qui est grave est difficile et tout est grave ». Alors, c'est aussi dans cette légèreté sans blé, dans cette légèreté qui fait illusion dans les œuvres de Michel Beaulieu, il y a toujours quand même cette espèce de souffrance délétère, de souffrance undercover qui est toujours là. La souffrance qui a un lien vraiment avec le manque ou avec l'insatisfaction perpétuelle, qui n'est jamais aidée par les amours ou par le sexe. Mais qui vient dans la poésie se cristalliser. Et dans plusieurs livres, dans plusieurs entretiens, Michel Beaulieu se confiait aussi et disait « La poésie est le seul lieu où je me trouve bien. » Et la poésie est un lieu aussi. Et il l'interpelle aussi. « Toi, la poésie. » Et on va parler du « tu ». Je vais vous poser la question. La première question que je vais vous poser, en fait, c'est... À la lecture du livre, comment avez-vous réagi avec l'abondance de tu, les tu? Qu'est-ce que ça vous a... À quoi ça vous faisait pas penser? Comment vous avez reçu l'abondance du tu? C'est pas un nous, c'est pas un je, c'est pas je, moi, je, toi, c'est un tu. C'est tu es là, je suis là, notre tu. Il n'y a pas, pas de je, c'est vraiment... Alors, votre réflexion sur les tu dans Kaléidoscope, les aléas du corps grave. Je vous pitche un peu vite, là, mais... Le premier, Daniel, Aimé, Isabelle.
Ben, je vais mouiller.
Daniel Racine.
Oui, ben, j'avoue que c'est surprenant. C'est, pour ma part, en tout cas, j'ai pas vu ça utilisé très fréquemment. Mais ce tu-là, c'est d'essayer de savoir de qui il parle exactement. Et tout au long de son processus, il nous donne des indices de plus en plus parce que moi, la façon que je l'ai perçu, c'est un peu sa conscience. C'est comme si c'était lui-même qui se regardait. Et l'utilisation du « je » arrive quand même assez tard. Il l'utilise à quelques reprises, mais il ne l'utilise pas souvent. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'il est un peu omniscient de ce « tu-là ». Il sait pas mal tout ce qui lui arrive. Il est capable de retourner dans son passé, d'aller dans son futur, dans son présent. Donc, je me suis dit, mais mon Dieu, ça peut être qui cette personne-là, sinon lui-même? Puis de se questionner par rapport à lui-même. En tout cas, c'est pas mal les premières grandes lignes que j'en ai déduites.
Oui, Aimé?
Je vais faire un coup de pouce, puis je vais revenir à ce que tu as dit, Bertrand, tout à l'heure. Parce que, en fait, ce que Daniel vient de dire, ça me fait penser... tantôt, tu parlais du corps grave, Bertrand, tu sais, puis je connaissais pas la définition, c'est super. Moi, tout de suite, j'ai pensé à l'avion, parce que vraiment, beaucoup de voyages, je vais prendre le train parfois, tout ça, mais... je me disais, oui, mais le corps grave, mais là, il est en avion, donc qu'est-ce qui se passe avec la gravité quand on est en avion? Puis là, je suis en train de penser à ça dans ma tête, là, je suis un petit peu partie. Puis là, toi, Daniel, tu parles d'omniscience, puis tout ça, puis effectivement, ça donne l'impression qu'il se regarde d'un avion, tu sais. Puis moi, en fait, j'ai vraiment perçu que le tu, c'était lui-même, le narrateur, de tout le long, sauf à la fin, l'avant-dernier poème, je sais pas son titre exactement. Oui, oui. Le tu était rendu une femme, puis là, j'ai comme... Je me suis dit, ben mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai rien compris de ma lecture? Est-ce que là, on change de point de vue? Puis là, il devenait un jeu tout à coup. Donc, c'est plus ça. Moi, ça m'a pas... j'ai attribué tout de suite au-dessus une valeur de jeu, en fait. Là, puis c'est juste à la fin que j'étais surprise.
Est-ce que quelqu'un... On va passer tout de suite à la lecture de vos poèmes préférés, puis on va pouvoir revenir avec de la matière, parce que là, on parle dans l'abstrait. Je voudrais qu'on tombe dans le recueil, puis qu'on commence à lire des... parce que c'est quand même un recueil de 150 pages, 150 poèmes, et je vais en parler ensuite. Mais lisez-moi, je ne sais pas, peut-être qu'Isabelle, tu pourrais nous lire, entre autres, Ville 27. ça me ferait plaisir. Et ça va nous introduire aussi à la suite des, entre autres villes, 31 portraits de villes que Michel Beaulieu a visitées, entre autres.
Alors, je vais juste le prendre.
Oui, c'est vrai.
Dans ton livre.
Entre autres, Ville 27 de Michel Beaulieu.
Celle où tu te reposes. Des jours si vite passés qu'au retour, tu oublieras, sans trop d'événements, qui te retiennent de fuir. En avant les bonnes adresses, plus tard même, les noms, tu les ressortiras, qu'abstrait de leur visage. Celui de Ginette qui n'a pas répondu, celui de Denis, à qui tu n'auras pas écrit, malgré ta promesse à la gare, où tu laissais passer l'un après l'autre les trains, jusqu'à l'avant-dernier, les collèges, tu les reverras, sans eux, si tu les revois, et les chapelles, tu resteras, comme alors des heures à déchiffrer la fluidité de leurs pierres, le pont mathématique. Tu en examineras encore les faisceaux, tu demanderas, comme alors ton café blanc, deux ou trois scones rêvant de ces jours indéfiniment, extensibles d'un avenir, dévorés ligne à ligne, et lorsque tu rencontreras son nom qu'une trajectoire autre eut longuement liée à cette part de l'existence où tout n'était que désir, tu mesureras l'étendue de ton enfermement.
Je pense qu'il y a trois lignes là-dedans qui sont importantes. C'est les lignes conclusives de ce poème-là, entre autres Ville 27. À cette part de l'existence où tout n'était que désir, tu mesureras l'étendue de ton enfermement. Alors, c'est un retour un peu sur tous les poèmes de Kaléidoscope, qui sont des espèces de Kaléidoscope des souvenirs de Michel Beaulieu, des souvenirs amoureux, des souvenirs érotiques et des souvenirs de voyage de Michel Beaulieu. Et cet enfermement-là, c'est un peu l'enfermement donc de la mémoire et l'enfermement des choses qui sont liées au désir et qui se sont donc sont devenues évanescentes, se sont évaporées avec le temps. Et c'est aussi l'étendue de cette plaie-là en même temps, de cet enfermement-là dans la mémoire. Maintenant, je suggérerais donc je voudrais entendre Aimé et Daniel sur la lecture des poèmes qui vous ont le plus intéressé dans le livre. Vous avez retenu
Aimé? Moi, j'ai retenu Aimé. Un autre, entre autres, ville. C'est le 12 à la page 61, okay. Dans leur livre BQ. Okay. Donc, je vais.
On t'écoute.
Celle d'où le train de la mer t'emporte à l'extrémité de ces trois lentes semaines, sans que tu ne perçoives le trajet de l'une à l'autre gare sans souci, de l'attente d'une heure au moins, dans un hall que dès le lendemain, tu refuserais de reconnaître. Extirpé de ta fatigue, sans regret de quitter le groupe, inévitable à l'intérieur du groupe, sans que la valise ne pèse à bout, de bras tu la quittes sans savoir, si jamais tu reviendras dans une autre vie, flairer l'odeur du thé, dans l'infusion portuaire et sans comprendre la leçon d'histoire de la veille à l'arrêt d'autobus.
C'est un très beau poème, ça. Qu'est-ce qui t'a touché le plus ou qu'est-ce qui t'a fait choisir ce poème-là, Aimé?
Ben, moi, il y a une raison niaiseuse puis une raison peut-être plus intéressante. La raison niaiseuse étant qu'on parle de thé. L'autre tout à l'heure parlait de scone.
Tout à fait à propos.
Ben, l'autre tout à l'heure parlait de scone.
Oui,
aussi,
c'est
donc
vrai.
Je me disais, on est vraiment au cardinal présentement, tout va bien. Oui. Mais moi, c'est le côté, justement, vers la fin, en fait, je trouve que les chutes sont souvent très fortes. Là, une espèce de, on parlait de la banalité, tout ça, oui, mais il y a aussi comme un côté... une réflexion philosophique, métaphysique que tu abordais tout à l'heure aussi avec la fin du poème précédent. Là. Mais ici, j'aimais bien la fin, en fait. Si jamais tu reviendras dans une autre vie, flairer l'odeur du thé dans l'infusion portuaire, une belle image, mais sans comprendre la leçon d'histoire de la veille à l'arrêt d'autobus. Donc là, on passe du plan de l'autre vie hein, à la leçon d'histoire de la veille à l'arrêt d'autobus, c'est quelque chose de complètement banal.
Je vais ajouter une information là-dessus parce que effectivement, les villes ne sont pas nommées.
Non, c'est vrai.
Mais ils laissent beaucoup d'indices pour qu'on puisse deviner les villes dont ils parlent. Et puis, je vais vous en donner d'autres, en fait. parce que les poèmes de Kaléidoscope ont été écrits à Montréal, à Québec, à Vancouver et à Boston. Et l'infusion portuaire, c'est le Tea Party à Boston.
Ah,
il fait
voilà,
référence au
voilà.
Tea Party dans un autre poème.
Ah,
donc, ça serait un poème de Boston, normalement, mais en tout cas, c'est plus ou moins important, mais pour vous dire que c'est des villes nord-américaines, pour la plupart.
Je suis un peu déçu, j'imagine le Portugal, quelque chose.
C'est, ouais, c'est ça.
Mais bon.
Perfect. Oh, no. Don't you dare.
Bon, ça se peut que ce soit le Portugal aussi, mais en tout cas, je sais
non,
que
non, mais
les évocations qui partaient au thé.
Non, non, clairement, là. Maintenant qu'on le sait, je pense que c'est évident.
Daniel?
Oui. Ben, juste avant de lire celui que j'ai choisi, par rapport à la construction de ces vers, j'aimerais dire que la façon dont je percevais ces mots, ces phrases, c'était vraiment une architecture. Je voyais ça comme des constructions. J'ai senti... Il y a une fluidité dans son texte, mais je vois vraiment ça comme une construction. Donc, à chaque fois que je lisais, je me sentais en promenade dans une rue où j'étais capable de visualiser pratiquement les mots, les phrases. Donc ça, ça m'a guidé vraiment tout le long. Et le premier édifice, je pourrais dire, qui m'a surpris, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est la première utilisation du « je ». Je vais vous lire la première fois où il utilise le « je », c'est dans « Un orage et après », le numéro 4, on est à la page 33. Et c'est un « je » très discret, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est en train de lire, on est comme je le disais tantôt, on est grisé, on est en promenade. Et là, tout à coup, le « je » apparaît, mais il va l'utiliser fréquemment, il va utiliser le « me », le « moi ». Donc, je vais vous lire.
Je l'avais noté pour le lire, celui-là aussi. C'est un de mes poèmes préférés aussi.
Tu t'endormiras bientôt, je pense. Partir, tu ne réponds pas. Depuis l'urette à mes digressions. Muette, les yeux clos, tu ne ponctues. Plus chaque épisode en les ouvrant. Je me tais, tu me regardes. Il n'y a rien de tel à la télévision. Tu sais comme moi que la vie ne tiendrait pas une heure un auditoire. Aussi résolument passif, avec ses temps d'arrêt, ses reprises. En main, tu me demandes un verre. D'eau, je me lève en secouant. L'invasion de fourmis le long, de la jambe dans une obscurité, qu'agace à peine la flamme d'une chandelle ou le rougeoiement d'une cigarette oubliée. Au fond du cendrier, tu dis, le robinet d'eau froide est à gauche, j'effleure ta main.
Voilà, ça c'est un très beau poème.
Ouais, et ce que j'aimerais juste rajouter, oui, en terminant, c'est que, bon, dans sa construction, moi, la liaison qu'il y a d'une phrase à l'autre, je voyais ça un peu comme une clôture,
oui,
ou une haie. Ou... Oui, c'est comme c'est si vraiment, vraiment tout était lié, comme si on est vraiment dans une rue qui a un sens, qui a une organisation derrière tout ça. Puis en même temps, il y a quelque chose de très beau qui s'offre à nous.
C'est un très beau poème. C'est un poème elliptique,
ouais,
fait d'enjambement. Tu l'as très bien lu parce que tu as ponctué la fin des vers. Et parce que si on le lit de façon continue, on ne perçoit pas que c'est de la prose à vers coupés, en fait.
Exact. Moi, je trouve que c'est primordial dans son œuvre.
Oui. Ouais. Et puis, il y a des sauts de vers qui sont intéressants, comme par exemple, avec ses temps d'arrêt, ses reprises, en main, tu me demandes un vers. D'eau, je me lève en secouant. L'invasion. Alors, il y a quelque chose de... On coupe un bout de lexi vers d'eau qui ne se coupe pas normalement. Hein? Et là, on le coupe de façon à faire... à transformer le quotidien en espèce de mise en scène curieuse, une mise en scène saccadée. Je crois qu'Aimé, tu veux dire quelque chose?
Oui, il y en a même un autre aussi que, ouais, j'ai beaucoup aimé pour ça. C'est juste un petit peu plus haut dans le poème. Là. Tu sais comme moi que la vie ne tiendrait pas une heure, un auditoire aussi résolument passif. Avec ses temps d'arrêt, ses reprises. Tu sais, ne tiendrait pas une heure, un auditoire. Moi, on peut le percevoir comme... dans le fond, ne tiendrait pas une heure ou encore ne tiendrait pas un auditoire.
C'est ça, exactement.
Il y a vraiment des questions comme ça.
Ce que j'entends, là, moi, j'ai l'impression que dans la forme, il y a une cassure à chaque fois qu'il y a quelque chose d'exprimé qui est de l'ordre d'une cassure qui se poursuit de force. Il y a comme... comme si l'échafaud devait se construire malgré les bris, les cassures, comme tu disais tantôt, une souffrance, ouais, qui ne se fait pas aider, mais il y a quand même la vie qui continue, puis le poème qui continue.
Ouais, si c'est tu me permets,
Daniel, Bertrand, tu veux parler,
j'aime vas-y. L'idée que tu utilises le mot coupé parce que miroir, c'est vraiment ça. Franc. La coupure est franche, oh, coupure le reflet de la lumière, tout ça, les réflexions. Mais il a poussé ça plus loin à une reprise.
Oui, on t'écoute.
Il a coupé un mot. Donc, il a utilisé la moitié d'un mot dans un premier et ensuite dans l'autre. Ça, on se retrouve à la page 132 et c'est...
OK.
Alors, bon, je ne peux pas vous nommer le titre.
Prenez votre livre à la page 132.
Là, il dit « Pour que ça peut bien vouloir dire tu baises, dit-elle du haut de ses 16 ans comme un intellect, tu elle et tu n'en as toujours. » Donc, intellectuel coupé en deux.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce que le mot intellectuel a été coupé et ça donne deux pronoms, en fait. Tu, elle, réunis en un seul. C'est un jeu encore sur les pronoms. Et pour revenir au poème que tu as lu à la page 33, il y a aussi l'expression « belle lurette ». Elle a été coupée au troisième vers, c'est « depuis lurette ». Donc, on a aussi omis le mot « belle », qui est quand même intéressant, dans une réminiscence de « s'unir amoureux » aussi. Donc, une espèce de pudeur qui fait omettre le mot « belle », entre autres. C'est très intéressant. On va continuer. Je vais vous lire, moi, le poème un des poèmes que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé la série « Fleurons glorieux divertissement » qui arrive au centre du recueil, qui, comme un divertimento, est une espèce d'entracte ou d'entre-deux, de transition. Et qui en même temps est un divertissement, une espèce de jeu sur... Fleurons glorieux, c'est un jeu sur l'hymne du Canadien et le rapport au pays, le rapport au territoire. Tu vas à tes affaires, les heures passées derrière la table de travail. Derrière, arrêtes-tu la quatrième ligne écrite et pourquoi? Pas devant, pas le long, de l'un, des longs côtés les lignes où s'appuie la calligraphie trace. Un treillis contre l'opacité, du papier, du lignage qui ne révèle nulle transparence. Et tu seras rentré trop tard pour les informations, le début du dernier film, un livre. Attends que tu t'attendes plus tard, quand les mots ne s'offriront plus, ni les visions saisies dans leur déchirante proximité, leur approximation, ni l'étape suivante du voyage. Et chaque fois que tu te demandes à quoi bon voir demain, seulement le voir, que la peau rayonne entre les doigts. J'aime beaucoup ce poème-là parce que ça met en scène le travail du poète, en fait, dans la quotidienneté. Et dans l'œuvre de Beaulieu s'interroge beaucoup sur la place du poète et la place du poème, aussi bien dans sa vie que dans la société, dans la ville. Et puis, donc là, c'est une espèce d'évocation du poème qui est en train de se faire, du poème qui est en train d'écrire. Et en même temps, c'est dans une espèce de suite de poèmes qui commencent tous par les deux vers. Tu vas qu'à tes affaires. Dans une perspective où la quotidienneté encore, la banalité du quotidien et les obligations qui font qu'on devient les individus qu'on est. Dans un contexte social ici, avec le titre comme « Fleurons glorieux », qui est un contexte canadien, québécois, parce qu'il ne faut pas oublier que « Kaléidoscope ou les aléas du corps grave » a été écrit après le premier référendum, et que là, c'était la grande époque de la désolation, de la déprime post-référendaire, parce que malgré tout, même si Michel Beaulieu n'est pas un poète du pays, ça reste un poète qui avait acheté sa carte du RIN, puis qui a milité pour le premier parti québécois, qui a voté PQ en 76, mais qui n'a pas fait son militantisme, comme Gaston Miron, une partie prégnante de son œuvre, à part pour ses deux, trois premiers livres. Alors, dans son dernier livre, publié de son vivant, « Le Kaléidoscope, les aléas du corps grave », cette série-là, « Les fleurons glorieux », qui parle de cette espèce de résignation-là, tu vas qu'à tes affaires, c'est une espèce de désir amoindri, c'est aller au quotidien sans trop s'intéresser à ce qu'on fait, mais en même temps, c'est un treillis contre l'opacité, comme il dit, c'est du papier du lignage qui ne révèle nulle transparence, donc c'est une espèce d'attaque de cette opacité-là, de cette... Du règne de cette espèce de détresse-là post-référendaire, mais détresse-là aussi qui va plus loin chez Michel Beaulieu, qui est une détresse donc intrinsèque de vivre.
Je peux-tu juste ajouter,
vas-y.
Bertrand?
Oui, vas-y, Isabelle.
Ce que je remarque, c'est que je trouve ça intéressant parce que le poème porte le titre d'un chant, un hymne national. Et bien que le poème renverse un peu, la noblesse de ce chant, on l'entend la musicalité comme jamais, je trouve, dans ce poème-là de Beaulieu. Il y a vraiment comme beaucoup d'assonances, une grande musicalité, un rythme très fort. Puis j'ai l'impression que ça nous met un peu dans une transe qui s'oppose un peu à la banalité qui évoque dans son poème. Donc, je trouve ça intéressant l'opposition entre le titre et le chant et le contenu du poème.
C'est tout à fait juste. Et puis, je répète ce que j'ai dit au début, dans la mesure où c'est ce que Michel Beaulieu a dit lui-même. Il y a seulement une place où Beaulieu est bien, c'est dans le poème. Et là, vraiment, on voit qu'il jouit du poème qu'il est en train d'écrire, puis il jouit de cette suite-là. Et d'ailleurs, je voulais juste mentionner que cette suite-là que je viens de vous lire est dans l'anthologie de la poésie française du 20e siècle, publiée chez Gallimard, tome 2, qui est publié dans les années 2000. Et puis, curieusement, bien sûr, je m'intéresse à n'importe quelle anthologie de la poésie française. Et bon, publié dans Poésie Gallimard, c'est un prestige international. Et puis, curieusement, il y a 5 auteurs québécois, dont Michel Beaulieu là-dedans. Il y a Nicole Brossard, Anne Hébert, Paul-Marie Lapointe, Gaston Miron et Michel Beaulieu pour parler de la poésie québécoise du 20e siècle. Donc, on a omis Saint-Denis Garneau, on en a omis plusieurs autres. Et puis, c'est intéressant parce que, justement, les deux poèmes qu'ils ont mis... qu'ils ont publié, c'est justement Fleurons glorieux, que je viens de vous lire, et le premier des Entre autres villes. Donc, c'est deux poèmes de kaléidoscope ou les aléas du corps grave qui sont dans le monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Beaulieu, les deux seuls poèmes de Michel Beaulieu qu'ils connaissent, c'est deux poèmes de kaléidoscope ou les aléas du corps grave. Donc, je voulais mentionner ça pour l'aspect historique, l'aspect importance de l'œuvre à l'étranger. Et puis... je continuerai juste en vous lançant des pistes pour que vous me... pour motiver, stimuler votre lecture du livre et vos interprétations personnelles. Bon, je vais citer des extraits d'études, par exemple... du numéro spécial de Voix Images 98 consacré à l'œuvre de Michel Beaulieu, un numéro récent. Et je vais donc vous citer un extrait d'une étude de Michel Biron dans le numéro de Voix Images 98, page 91. Qui parle du temps facteur d'ennui chez Michel Beaulieu. Donc, pour continuer à filer la métaphore sur ce que je disais et ce qu'on dit depuis tantôt. Donc, je cite, début de la citation, « Le temps est ici facteur d'ennui, comme dans les recueils précédents, mais c'est un ennui qui n'est pas dépourvu de ludisme ou de légèreté. Le titre même du recueil, « Kaléidoscope ou les aléas du corps grave », contient les deux sèmes, le jeu et la gravité. » Dans l'univers réaliste de Beaulieu, on passe sans transition de l'un à l'autre, même si le second terme semble englober le premier. Et puis je vais continuer avec une autre citation du même article de Michel Biron, qui parle toujours de kaléidoscope ou les aléas du corps grave. Début de la citation. « Il n'y a pas d'issue, pas d'échappatoire dans cette poésie obsédée par le monde matériel. Le sujet est collé à l'espace qu'il habite, coincé en lui-même comme dans sa chambre, dans sa rue, isolé dans sa ville comme dans n'importe quelle autre ville. Ni les voyages, ni les déménagements, ni les expériences de drogue, ni l'appel du désir ne lui permettent de s'évader de lui-même. » Je trouvais que ça évoquait bien ce qui se passe dans la lecture de Beaulieu, des fois, ce qu'on ressent en le lisant. Et je vous demanderais d'y aller avec vos commentaires ad lib. Daniel, à partir de ça.
Je vais rebondir sur ton idée de jeu.
Vas-y.
Que M. Beaulieu est vraiment à l'aise et s'amuse.
Oui, absolument.
Moi, un poème qui m'a beaucoup plu, c'est « Écrire ». parce que là, il s'amuse, c'est une mise en abîme sur son propre travail.
Oui, tout à fait.
Bon, je pensais vous lire le numéro 3, qui est très bref.
OK, à quelle page?
Là, on est à la page 101.
101, OK.
Pour rester dans le thème politique.
Voilà. Ça a pris 3 secondes à comprendre.
Je vous laisse le temps. En enlevant 2 lignes, à chaque fragment, le 8e n'en aurait plus qu'une et la 9e s'enfoncerait dans l'antipoème et tu ne pourrais plus jamais en modifier la teneur où tu la laisserais tant qu'elle voudrait lire au-dessus de ton épaule ces mots que tu interdis encore à ses oreilles. Ça, je trouve que c'est vraiment de toute beauté parce que là, il se parle vraiment à lui-même. Là, c'est l'auteur qui réfléchit au mouvement, à l'écriture, au jeu, à tout ce qui précède finalement et à tout ce qui s'en vient. Moi, c'est vraiment venu me chercher.
C'est un poème que j'aime beaucoup aussi. C'est une suite qui s'appelle Écrire, qui contient 9 courts poèmes, je crois.
Oui.
8 courts poèmes. Et puis, c'est intéressant de noter que, en fait, plus il écrit le poème, plus il le retravaille, plus la personne qui est avec lui le relit, moins il y a de vers. Plus il va à l'essentiel. Et puis le 8e extrait de cette série poème, c'est un simple vers qui va comme suit. Écris si tu oses, plus avant. Alors, c'est une espèce de jeu sur le rapport entre le lecteur et puis qui commente l'écriture et puis l'écriture elle-même.
Donc, vraiment, on reste dans le jeu. Là.
On reste, c'est dans le jeu. Là, c'est le Michel Beaulieu ludique, effectivement. Aimé, tu voulais dire quelque chose?
Bien, en fait, je reviens à la citation tout à l'heure, Bertrand. Je ne me souviens pas exactement, mais tu parlais de entre le jeu et la gravité, c'est ça?
Oui.
Bien, moi, c'est entre. En fait, entre, c'est vraiment un mot que j'ai retenu de ma lecture.
Oui,
à part,
absolument.
Kaléidoscope, mais,
oui.
Mais tu sais, bon, évidemment, il y a des titres entre autres villes.
Oui,
là, bon,
c'est ça.
Énormément, mais je sentais que, en fait, le recueil, c'est souvent des poèmes entrecoupés de villes.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
que
c'est vrai.
Des villes qui apparaissaient comme ça de temps en temps, puis des états du... chantait beaucoup chez lui, l'état du in-between, tu sais, dans le flow du voyage ou de la vie, puis que tu as des réminiscences, tout ça, puis que tu te laisses porter, t'es entre deux états, donc t'es ailleurs, en fait, dans ta tête. Puis l'entre, justement, mais j'ai un petit extrait à lire que j'ai beaucoup aimé au début dans L'inconnu du voyage. Qui parle justement de cet entre-là, entre le... J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais entre le temps qui est comme... Entre le micro et le macro dans le temps, en fait.
Oui, vas-y.
Fait que je peux vous lire, c'est la page 15, L'inconnu du voyage. C'est le paragraphe tout en bas. Mm-hmm.
Puis moi je vais te lire une citation d'un universitaire qui parle exactement de ce que tu viens d'évoquer dans Michel Beaulieu. Donc,
okay. Donc je vais avec le court extrait.
Vas-y.
Cet avion ne décollera jamais, faisais-tu, souvent semblant de croire pour ajouter du piquant à ce spectacle d'une demi-minute, voilà. Bien 10 ou 12 ans, lorsqu'on n'avait pas rentré, le train d'atterrissage parmi les explosions. J'arrête là parce que c'est le fun d'arrêter là.
Oui, oui, c'est ça.
Parce qu'on ne sait pas les explosions de quoi, c'est encore
non,
mieux.
C'est ça.
Mais là, je trouvais ça merveilleux parce que cet avion ne décollera jamais. Puis là, tout à coup, on est rendu dans la demi-minute. Mm-hmm. Puis après ça, voilà, bien 10 ou 12 ans. Que, puis là, il est dans le souvenir encore.
C'est ça,
puis...
télescopage du temps.
C'est ça, exact.
Jeu avec le temps. Et ouais. Je vais, pour te prendre la balle au bon, je vais parler de l'absence de fixité de la conscience dans Kaléidoscope ou les aléas du corps grave. Je vais citer Isabelle Miron dans le même numéro de Voyage 98 sur l'œuvre de Michel Beaulieu. Elle dit, j'ouvre les guillemets, « De plus, la coupure et la syntaxe particulière qui, en déjouant la prévisibilité de lecture, mettent en évidence son jeu continuel avec les temporalités, dévoile l'absence de fixité de la conscience. » Fin de la citation. Et je pense que là, on a le cœur du travail sur la conscience qu'opère le poète Michel Beaulieu dans son recueil « Kaléidoscope » ou « Les aléas du corps grave », mais dans ses autres recueils aussi. Comme si la conscience était une espèce de bête mouvante qui ne tient pas compte du réalisme ou de la réalité du temps présent, mais se déplace un peu comme un kaléidoscope sur les multiples motifs que produisent tous ces souvenirs-là mis ensemble, qu'on regarde à chaque fois d'un œil différent. Alors, Voilà, encore. Oui, Aimé, tu veux acheter quelque chose? Benoît?
Je vais acheter quelque chose pour m'immiscer.
Oui.
Si on parle, bon, du. C'est ça, cette espèce d'absence de fixité de la conscience. Depuis tout à l'heure, bon, il y a été question de l'enjambement aussi. Et puis, ce que l'enjambement, c'est quand même assez intéressant dans le poème, ça nous force toujours, en fait, à revenir constamment jouer avec des éléments qui sont les mêmes, en faire une double, une triple lecture, voilà, dans certains cas. Mm-hmm. Puis, il y a l'anthropologue John Napier, bon, qui est cité par Rebecca Solnit dans L'Ordre des marchés, qui dit, finalement... quand on marche, on est toujours sur le point de se casser la gueule, au fond, le constant rattrapage d'un déséquilibre. Et ce qui est intéressant dans les objets, les thèmes abstraits, en fait, qui sont abordés par un beau lieu, bon, à la fois la trajectoire, mais ensuite, bon, l'écran de télévision, etc. On est toujours entre l'abstrait et le concret. On a ce jeu-là de tension, en fait, qui est mis en place. Et puis, c'est ça, on ne sait jamais exactement si on est dans le corps ou dans la conscience, ou du moins dans la réflexion, en fait, sur la perception qu'on a du monde. Et donc, il y a constamment ça, cette oscillation-là, ce jeu-là, finalement, du constant retour sur soi. Et ce soi-là, justement, n'est pas accessible, n'est pas, il est constamment en train de fuir. Et puis, ça me fait penser, bon, on parle de kaléidoscope depuis tout à l'heure. Italo Calvino, dans Un soleil jaguar, justement, parlait de la marche comme d'un kaléidoscope quand il marche dans la ville. Justement, à chaque pas, finalement, notre perception du monde change. Mm-hmm. Même si on regarde constamment le même objet. Alors, petite parenthèse.
Oui, ben, on sait que tu as travaillé en géopoétique avec un groupe de recherche sur la marche. Alors, merci de contribuer ici à la lecture de Michel Beaulieu à travers tes lectures personnelles. Effectivement, la marche, c'est la marche dans la ville aussi. C'est entre autres villes. Michel Beaulieu allait en voiture, mais marchait et sillonnait les villes. Et ses poèmes sont aussi issus de la marche, effectivement. Et ça s'applique tout à fait. Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Aimé?
Mais en fait, ça faisait déborder sur un autre sujet, mais qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Mais effectivement, là, il y a quelque chose. J'allais dire que la conscience, mais en fait, il déjoue lui-même aussi d'une certaine façon.
Oui.
Puis aussi, tu disais, je me rappelle pas exactement le terme que tu as utilisé, Benoît. Tu disais tantôt le soi n'était pas accessible.
Accessible.
Hein. Ben, l'autre non plus n'est pas accessible. En fait, puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux dans le recueil, c'est que il y a tellement de références à parler, à s'entendre ou pas, à la rencontre, au silence, mais il n'y a jamais de communication. Ça, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui fonctionne pas. Parle un peu dans le vide, tu sais. Puis c'est un peu le rythme qui crée ça aussi, une espèce de logorée. Ça dépend comment on l'entend dans notre tête, bien sûr. Là, mais il y avait un extrait que j'aimais bien. J'ai noté la page ici, 90.
OK, ben lis-le.
Je vais le lire dans le livre parce que je ne me fais pas confiance.
Page 90 de Kaléidoscope, les aléas du programme.
Puis là, c'est à peu près en plein milieu d'un poème. Là.
OK, ben vas-y.
Je vais commencer par le début de la strophe, qui est la troisième de la page.
OK, on t'écoute.
Et tu lui dis, j'aimerais vous dessiner de mémoire. Une fois reparti, vous savez, je ne connais rien des codes. J'entends si peu de paroles et tant de conversations à sens unique. Donc, quelque chose ici de... Ça fait qu'on s'entend pas, en fait. On s'entend pas soi-même à travers peut-être le blabla là, dans notre tête. Mais
oui,
aussi,
c'est ça, le murmure marchand, le murmure de la ville, l'espèce de kaléidoscope des voix, l'espèce de brouhaha urbain, et puis le concert des voix, tout ça. Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi une réflexion sur l'incommunicabilité, aussi, le défaut de communication. Et puis, comme disait Benoît aussi, cette espèce de réalité qui est toujours fuyante, qu'on est toujours en train de rattraper. Et cet aspect-là est très, très, très bien capté dans la poésie de Michel Beaulieu. Je pense qu'Isabelle, tu voulais lire quelque chose?
Lequel des trois poèmes que je devrais lire entre autres Ville 5, Pantonyme, Conversation?
Vas-y avec Pantonyme.
Alors, Pantonyme.
Pantonyme de Michel Beaulieu.
Pantonyme, pardon. Tu rentres en toi l'hiver où rien ne la retient. De ces phrases laissées en suspens parmi les murs, de l'appartement tu donnes à son désir l'assentiment qu'elle réclame sans discuter, qu'elle se rencoquille au fond, du sofa dénué de mots. La question se pose, crois-tu, dans l'œil qui te cherche. Tu t'éloignes parmi les arbres, du parc le bruissement, de leur feuillage au-dessus, des toits tu n'ignores pas, son appétit la profondeur, de son angoisse au jour, le jour le sentiment qu'elle a de basculer dans la mort et tu n'interviens pas.
Oui. Alors, ben, juste le titre réfère à tout ce qu'on a dit depuis le début de, du cercle de lecture sur l'œuvre de Beaulieu. Pantomime, c'est donc une espèce de pantin désarticulé ou personne sans identité, tout à fait, qui est une espèce de souvenir restant, je ne sais pas trop quoi. Comment tu interprètes ça?
Ben, en fait, moi, ça, genre, que ce soit le pantomime ou le kaléidoscope, ouais. Ça me fait penser un peu au recueil de François Turcot, « Cette maison n'est pas la mienne ».
Oui, « Prénéligant ».
Ou dans lequel, en fait, il y a cette idée d'un patchwork d'images familiales ou d'une quête d'identité à travers des morceaux qu'on colle, qu'on essaie de réunir. Et je me demande s'il y a un lien à faire, chez Beaulieu. Est-ce qu'il y a une quête d'identité? Comment vous la décririez? Est-ce que c'est une identité plus personnelle? Moi, ça me semble être ça, plus qu'une identité nationale, par exemple.
Je vais te répondre en donnant une autre citation d'un universitaire sur l'œuvre de Beaulieu, toute simple, en fait. Deux, en fait. De Michel Biron, toujours dans le numéro de Voyage 98. Chez Beaulieu, la ville est intériorisée et semble une vieille connaissance. Alors, Beaulieu transforme la ville en un autre tu à qui il s'adresse aussi. Dans certains poèmes de ses recueils précédents, il tutoie la ville et toi la ville. Donc, la ville rentre dans les tu avec qui il a un dialogue. Donc, elle est intériorisée. Donc, cette identité-là, cette espèce de patchwork-là de manteau d'arlequin, c'est un manteau d'arlequin qui se fait aussi avec... ta perception de la ville, ta décomposition mentale de la ville, ta ville personnelle. Et je t'en cite une autre, d'Isabelle Miron, Voix Image 98. Par le moulinet des paroles, le sujet cherche à retrouver cette déstabilisation régénératrice provoquée par la rencontre de son altérité mentale. Donc, c'est aussi un tu qui s'adresse à lui, qui s'adresse au je qui est lui-même. Et c'est un tu qui s'adresse à ses propres souvenirs. Et grâce au dialogue qu'il instaure avec ce tu, cette ville intériorisée, et ce tu, ses souvenirs, ses anciennes flammes, il donc recompose et reconfigure l'identité mentale qu'il thésaurise en la mettant en poème, en fait. Donc, écoutez, je pense qu'on va clore là-dessus. On pourrait encore faire 3 heures sur ce livre d'une richesse inouïe qui est très complexe. Je pense que pour les gens qui vont écouter ce podcast sur le site de Radio Spirale, ils vont comprendre en entendant les poèmes qu'on a lus que c'est bien juste une fraction de l'œuvre et que la richesse de ce livre de poésie majeure québécois mérite qu'on s'y attarde. Donc, je vous incite fortement à aller donc le réserver à votre bibliothèque, ou mieux encore, l'acheter, car acheter de la poésie québécoise, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ça, c'est mon nouveau slogan. Alors, on va se laisser en faisant un tour de table, étant donné qu'on est entre poète et... poète qui s'est donné... au Festival de Trois-Rivières. Il m'a raconté ça, Daniel, hors micro. On va se laisser sur des poèmes de chacun. Je vais rapper après ça, en fait. Donc, Aimé, si tu veux nous lire des poèmes de ton premier livre publié à la Peuplade, « Tu me places les yeux ». Alors, on t'écoute. Tu peux présenter le contexte.
D'ailleurs, je vais présenter le contexte parce que c'est un peu drôle. J'ai réalisé ça tout à l'heure parce que je ne m'en étais pas rendu compte que mon livre s'est écrit parle de la famille Beaulieu. Parce que je suis moi-même une demi-Beaulieu.
Ben oui!
Je ne sais pas si j'ai un lien avec Michel
Beaulieu-là.
C'est
intéressant, ça, c'est vrai.
Puis certains de mes poèmes parlent expressément du nom Beaulieu. En fait, il y a même une suite qui s'appelle Le Beaulieu, qui était le nom du chalet de ma grand-mère. Puis j'en ai un autre, donc je voulais une petite suite provenant du livre, puis aussi un autre poème du livre aussi qui parle du Commodore 64, dont on a parlé tout à l'heure. Parce que, en plus, le livre se passe à la fin des années 80, donc il y a un peu de technologie, ben plus 90, mais... Donc voilà, je commence par une courte suite qui s'appelle « Le métier ».
Alors, Émile Lévesque, tu me places les yeux.
Sur ton métier, des trames de bois remontent. Au temps des retailles, les pédales allongent ton point d'orgue. Une moyenne aria s'envole. Sous ta langue de farine, tout roule. Le repas et l'habillement chantier, des petits enfants comme devant, chacun sa carotte. À toi, le seul ministère des méchinois. Tes enfants, 8 bons exemples de glaçage vert jaune poli sur les dents. Ténacité, don de soi, j'ajoute une lettre, une curiosité de biais. Aigu de Guélanchot au ventre, comment se sortir la tête d'une famille où tous s'appellent comme le voisin? À moi, les fils, les croix, les majeurs, mes histoires ont toutes des E. Mes pages décollectées, j'en relis les trous avec du plastique. Je prends une tasse cernée, de mes mains, gauche, ta vie renverse l'ordre. Donc ça, c'était le métier. Et maintenant, question de rire un peu pour ceux qui connaissent bien le Commodore 64 et les ordinateurs qui ont suivi, là, mettons. Peut-être un peu après, en fait, mais un peu tout ça, donc je vais. Devant les Bigfoot, orbite losange, blanc balle de mini-pot, j'ai appris à suivre le regard saccade du voyage et à agir au moyen des autres joysticks. Voilà.
Bravo. Alors, c'est intéressant que ta poésie s'insère aussi dans une espèce de filiation indirecte et puis diffuse avec la poésie du quotidien de Beaulieu et les ellipses aussi. Tu travailles beaucoup l'ellipse. C'est des poèmes très courts. Et tu parles de ta grand-mère, des souvenirs que tu as eus de ta grand-mère. Et tu recomposes aussi une espèce de kaléidoscope du quotidien que tu as vécu à l'époque un peu.
Oui, c'est vrai. Puis il y a plus de couleurs dans le mien, par contre.
Oui, c'est ça.
Il y a moins de profondeur, mais il y a plus de couleurs.
C'est vrai qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça dans la poésie. Et Daniel Racine, maintenant, oui.
À remercier Bertrand, d'ailleurs, qui est mon premier lecteur. Et mon
ben
joli,
oui, ben, c'est correct. C'est correct.
Oui, donc.
Alors, merci. Donc, Daniel Racine, qui m'a raconté tantôt hors micro qu'il s'était commis par une nuit bien endiablée et bien avinée à lire. Il s'est commis en lisant un poème de son cru au Festival de poésie de Trois-Rivières, au micro ouvert, qui oui. Des fois, effectivement, je peux corroborer, et des fois, qui peut être un peu pénible.
Oui. À défaut de pouvoir vous lire ce poème ou en lire d'autres, parce que malheureusement, j'en ai pas, je vais vous raconter cette petite anecdote. Donc, on est septembre 2001, une semaine après les attentats du 11 septembre, et avec des amis présents au Festival de la poésie de Trois-Rivières. C'était pas un grand cru, cette soirée-là, ceux qui étaient au micro. Et tout au long, j'écrivais vraiment un truc un peu spontané que j'étais lire avec quelques pintes derrière la cravate. Je sais pas si c'est bon, je l'ai jamais vraiment relu, mais le titre, c'était « Attentat » et je m'en prenais aux gens sur place. C'était très bien pour finir la soirée. Donc, je m'en tiendrai à ça pour l'instant, mais j'aurai des preuves subséquentes dans les prochains.
C'est un attentat au mauvais goût. En fait.
Exact. C'est ça. Mais c'est bien, des fois, de secouer l'establishment.
Ça commence comme ça. Ça commence dans la révolte, quand même.
Exact.
Il faut se dire.
Oui. J'étais jeune.
Oui. Nous avons tous été jeunes. Benoît, t'as pas de texte. Pas aujourd'hui. C'était pas prévu.
C'était pas prévu parce qu'on va pas ajouter au groupe secret.
Non, c'est ça.
Quelques notes prises sur la rue Saint-Laurent, mais c'est okay. Loin d'un texte.
Une prochaine fois.
Je vais dans le groupe secret.
Isabelle Gaudet-Labine, donc, vas-tu nous lire des inédits ou des...
Des inédits. Un petit extrait de mon prochain livre qui va paraître en septembre.
Ah, bien, il ne sera plus inédit bien trop longtemps.
Non, c'est ça.
On a roi, j'imagine.
À la Peuplade, comme les deux précédents, en fait. Et donc, ça va s'intituler...
Mais t'as publié au Noroi avant.
Mes deux premiers étaient au Noroi, puis là, ça va être mon troisième à la Peuplade.
Wow!
Alors, ça va être un livre qui... En fait, c'est une réflexion sur ma relation aux machines à trois époques de ma vie, le passé, le présent, le futur. Et donc, il y aura une partie de science-fiction poétique, si on veut.
Ouais.
Exercice assez... en tout cas, on en reparlera. Périlleux, oui. Mais puisqu'on est dans le présent avec Michel Beaulieu, et alors je vais vous lire quelques poèmes de la section présent.
On t'écoute.
De nouveaux serveurs se préparent à vider nos solitudes. Il neige, viens, quittons les lieux sans boire ni manger. Nuagique vacarme des réseaux, rencontre-moi, j'ai frayé à la lune, pondu mes 10 000 œufs. Je pue jusqu'au fond du sexe, mon amour. Les mains se cherchent comme des palmes dans le corail, mais partout l'on entend « La journée est longue, on gèle, tu n'as pas fait l'épicerie. » Chacun sait l'abîme qui couvrira son cri. Autant perlé de sueur sur le corps dévêtu du pardon, jusqu'à « Je t'aime, mon calmar volant, ma géante lueur des mers. » Loin des LMS, Learning Management System, tu es ma façon de commettre des impairs. Fruits, pulse, ma fraîche salamandre, sur les rochers, je m'étends dans tes liquides, sans autre forme d'apprentissage.
Ben, c'est certainement une poésie qui aurait pas, qui aurait beaucoup intéressé Michel Beaulieu, parce que s'il était encore vivant, comme je vous ai dit, ça serait certainement intéressé à la science, aux robots aussi, et à tout ça. Donc, pour clore tout ça, je vais vous lire des extraits de ma prochaine suite. Je sais pas si ça va être publié où, mais... Dans le cadre de mon mandat de poète de la cité, je me suis intéressé aux arbres centenaires de Montréal. Donc, j'ai écrit une suite de lettres à des arbres centenaires, ciblées, des arbres centenaires qui existent vraiment. Donc, je te l'ai rencontré, je les ai pris en photo et j'ai écrit une lettre, qui était une espèce de lettre hommage, ou une lettre d'amour, une lettre... Et je les ai toutes renommées. Je leur ai toutes donné des nicknames pour les identifier encore plus et les associer à la ville, à ma ville intérieure, justement. Donc, on va commencer par un chêne de 300 ans à Côte-Saint-Luc. Lettre au chêne à gros fruits de Côte-Saint-Luc. Cher cyclope, beau parleur tricentenaire, guetteur admirable d'une forêt sans voiture, tu étais là, furieusement enraciné en 1716, assujetti comme nous tous à la dureté perméable de vivre. Tu nous nargues maintenant de ta hauteur bourrue. Tu es le bel anonymat de la nature, pluie, animaux, feu lointain et feu des nuages. Tu n'as rien vu de la progression des municipalités. Tu n'as rien senti de la lente mainmise de la brique sur la terre sans nom. Grand chêne fougueux, grand chêne, Pénélope, voyage de feuilles. Malgré tes boursouflures, tu es encore vivace. Tu es l'exception qui confirme ton règne. Roi aux feuilles lobées, chanceux d'avoir trouvé des amis, parmi les humains lâches qui brûlent la vieillesse. Je t'écris ces lignes, cœur pesant, ne sachant trop si te mettre sur la sellette te sera fatal ou bénéfique. J'aide souvent en criant, je ne suis qu'humain, hébété par mon agressivité vertueuse. J'aime avec des soupçons et j'adore avec ma rage. Je fais partie de cette espèce animale qui vous a transformé en meubles, lattes à bateaux, boîtes de construction et objets d'art. Je suis un loup qui offre ses vœux à un lièvre. Ton immobilité est la seule réponse que j'attends. Et je vais vous lire une seconde lettre à un carrier cordiforme centenaire du Mont-Royal. Il est très beau d'ailleurs, c'est un grand fût gris. Et lui, je l'ai appelé Héliogabale. Cher Héliogabale, ingénieur balistique, prince grandiloquent, point de fuite, je t'ai cherché longtemps parmi les rambardes de rouillé, les escaliers de ciment granuleux, l'angle défini du dossier témoin. Parti à la recherche d'un arbre clé, je me suis pris au jeu, grignotant les indices, mimant Alphaville. Compagnon des érables, voisin des souches, tu as le front lisse des éberlués, la calotte qui dépasse et l'enthousiasme grenu de ton écorce silo. Il y a plus de 100 ans, au-dessous de la canopée, poussait ton éminence, ponton, bricole. Tu as vaincu le sous-bois, tu t'es assis indolent sur ton lot de ciel. Si tu existes encore, c'est que tu n'arrêtes pas de jouir, sidéré par ton effronterie. Carrier fuselage, carrier Apollo, tu es l'arbre technologique. très loin de la gravité, habitué aux humains, indifférent à leurs roseaux fouetteurs, indifférent à leurs bourdes tragiques. Donc là-dessus, je vais remercier tous ceux qui ont assisté à ce premier cercle de lecture Poésie été au Cardinal rue Saint-Laurent, organisé par la Poésie Partout. Donc, merci Daniel Racine, merci Aimé Lévesque. Oui, oui.
Oui. Jamie, tu disais parmi les humains lâches qui brûlent leur vieillesse. En tout cas, c'était certainement pas Michel Beaulieu.
Non, non, c'est certain. Non, c'est certain. Donc, merci Aimé Lévesque. Merci Isabelle Gaudet-Labine.
Merci à toi, Bertrand.
Et merci à Benoît Bordelot, technicien émérite et commentateur sur le fly, comme on dit. On espère qu'il se joindra à nous pour une prochaine, prochain cercle de lecture. Donc, j'invite tous les gens qui écoutent ce podcast avant le... mettons le 18 mai prochain, au prochain cercle de lecture Poésie été au Cardinal rue Saint-Laurent, qui traitera du livre « La beauté des visages ne pèse pas sur la terre » de François Charron. Ça sera donc à ce moment-là un 6 à 8. Je vous invite donc à 6 heures tapant. Je vous intime d'avoir lu le livre, sinon on vous donne un coup de pied dans le cul et vous sortez directement du Cardinal. Et je voudrais mentionner, pour terminer, un commanditaire important, la librairie du Square. Vous pouvez vous procurer tous les livres qui seront au programme des sacs de lecture prochains à la librairie du Square. Donc, bien entendu, le Kaléidoscope pour les aléas du corps grave, vous pouvez vous le procurer là-bas. La beauté des visages ne pèse pas sur la terre, François Charron, ainsi de suite que le prochain, donc animé par Jonathan Lamy, le livre de Joséphine Bacon. Et je salue aussi donc Radio Spirale, qui a généreusement enregistré cette émission. Et je répète que ce premier sac de lecture est organisé par l'OBNL, La Poésie Partout, un groupe de poésie qui donc s'intéresse à la diffusion de la poésie et à la lecture de poésie. Bon, ben merci.
Bravo tout le monde.
Ben oui, bravo.
Super intéressant.